Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Margot Leridon, mais aussi Mélanie Chalandon, Bertie Bourdon, Nicolas Sandé. Réalisé par Benjamin Hume qui nous rentre tout juste de vacances, on le salue, et à la technique ce matin, Anthony Thomasson. Deuxième temps de notre série consacrée aux grands enjeux de la rentrée pour la diplomatie française. Après avoir évoqué hier l'amitié historique entre l'Hexagone et le Liban, avant de nous pencher demain sur la voie de l'Europe en Biélorussie, et puis jeudi sur celle de Paris en Méditerranée orientale, on se tourne aujourd'hui du côté du Sahel, alors que la France y est engagée depuis près de 8 ans, à travers les opérations Serval puis Barkhane. De nouveaux bouleversements politiques sont venus ces derniers jours illustrer l'instabilité persistante de la région, et notamment des nouvelles venues de Bamako.
Je voudrais, à ce moment précis, tout en remerciant le peuple malien de son accompagnement au long de ces longues années, de la chaleur de son affection, de me dire ma décision de quitter mes fonctions, toutes mes fonctions à partir de ce moment.
Le Mali tout entier a été libéré aujourd'hui par une force républicaine. La population malienne le soutient de haut et en bas. Vraiment, nous sommes très très contents. Il n'y a pas l'éducation, il n'y a pas la santé, il n'y a pas la sécurité. Tout a été dit au Michi.
Tout le peuple malien attendait ce jour. Aujourd'hui, franchement, on n'a pas de mots pour exprimer ce que nous avons sur le cœur. On ne peut que dire Dieu merci et que Ibeka donc, et sa bande donc, puissent nous foutre la paix. Dieu merci.
Voir depuis 7 ans au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta, Ibeka comme on l'entendait à l'instant, a démissionné la semaine dernière à la suite d'un putsch militaire salué par une partie de la population. On entendait également des témoignages recueillis par France 24. Cet épisode est une triste répétition du scénario 2012 qui avait mis fin, lui, au mandat d'Amadou Toumani Touré et qui souligne une fois encore cette absence de légitimité des élites politiques, alors même que le retour de la confiance est unanimement présenté comme indispensable au rétablissement de la sécurité. Un constat amer quelques jours après l'attaque terroriste qui a coûté la vie à 8 personnes, dont des membres d'une ONG française à Kouré au Niger, où le djihadisme ne cesse de gagner du terrain. La situation n'est pas beaucoup plus réjouissante du côté du Burkina Faso, où les violences s'intensifient elles aussi à la faveur de la multiplication des acteurs armés. Une prolifération que l'on observe dans toute la région, où différentes factions islamistes, qui coexistaient déjà depuis des années, se livrent ces derniers mois des combats acharnés. Alors en quoi ces bouleversements politiques traversés par le Mali viennent-ils perturber la coopération militaire du pays avec ses voisins du G5 Sahel, mais aussi avec la France dans le cadre de l'opération Barkhane? Une contagion contestataire est-elle à craindre dans la région? Comment expliquer la détérioration constante de la situation sécuritaire du Sahel au cours de la décennie? Et de quelles pistes d'amélioration dispose-t-on pour briser ce qui s'apparente à un cercle vicieux? Pour évoquer toutes ces questions, on a invité ce matin Alain Antil. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes directeur du Centre Afrique subsaharienne de l'IFRI. Avec nous également depuis Bruxelles, Yvan Guichagua. Bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheur et maître de conférence à la Brussels School of International Studies de l'Université du Kent. Vous êtes auteur de rapports réguliers sur la situation sécuritaire au Sahel. On va avoir l'occasion d'en parler évidemment ce matin. Depuis le putsch de la semaine dernière, il y a des discussions qui se tiennent à Alain Antil. On va commencer avec vous. Entre la junte et les négociateurs de la CDAO, la Communauté des États d'Afrique de l'Ouest, pour le moment, on n'a pas encore trouvé d'accord sur un cadre général de transfert du pouvoir vers les civils, mais en revanche, on a quand même une toute petite avancée, une avancée qui est le fait que la période de transition, au départ, devait être de 3 ans, nous avait dit ces putschistes, elle sera seulement de 2. Que vous inspire cette avancée? Et puis plus généralement, comment est-ce que vous voyez cette séquence politique là qui va arriver dans les mois à venir au Mali? Est-ce que vous êtes confiant dans cette transition qui est maintenant engagée?
Confiant, non, parce que la situation est quand même très 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 préoccupante. Alors sur la négociation entre la CDAO et la junte au pouvoir, en réalité la seule avancée notable est celle de la promesse de libération des gens qui ont été arrêtés, notamment du président Ibeka, et de l'amélioration de la des conditions de détention des gens qui ont été arrêtés. Sur la durée et la nature de la transition elle-même, il y a des informations qui très contradictoires qui circulent. Ce que dit Ismaël Vagué, qui est le porte-parole du CNSP, c'est que il est préféré.
Un peu à la tête des putschistes. Hein.
Oui, c'est
l'un des hommes forts.
Hein. Oui. C'est le porte-parole. Ils ont décidé de centraliser leur communication autour de lui. Ce qu'il a laissé entendre par une déclaration publique hier, c'est qu'il voulait d'abord négocier avec les forces vives maliennes avant de négocier avec la CDAO. Il a réfuté cette durée de 3 ans. Il dit qu'il ne sait pas l'origine de cette information. Donc voilà où on en est sur cette partie de la négociation. On est dans le flou. Évidemment, la CDAO s'est manifestée de deux manières. Elle a déjà pris des sanctions qui, à mon avis, sont des sanctions qui vont plus se faire sentir sur l'activité économique et vont pénaliser la population. Et elle a eu un réflexe légitime, d'une part, de dire voilà, il faut revenir à l'ordre constitutionnel, rétablir Ibeka dans ses fonctions, ce qui était complètement irréaliste d'un point de vue politique, parce que c'était la seule chose sur laquelle beaucoup de Maliens étaient d'accord, c'était qu'il fallait qu'Ibeka et l'administration Ibeka partent.
Yvan Guichaoua, vous êtes d'accord, s'il y a une chose qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'un retour de Ibeka n'est pas possible. La destitution, elle est entérinée. On est sur un putsch qui va durer. Ibeka, c'est fini à la tête du Mali, Yvan Guichaoua.
Oui, oui, il y a absolument aucune incertitude sur ce point-là, puisque même la CDAO, qui initialement avait demandé le retour d'Ibeka, semble avoir fait une croit sur cette possibilité-là. Donc,
et lui-même, d'ailleurs, n'envisage même pas de revenir.
Effectivement, c'est la durée de la transition. Pardon ?
Et lui-même, il n'envisage pas de revenir. Il a clairement dit qu'il ne reviendrait pas.
Non, alors, c'est ce qui a été dit hier de manière peut-être un petit peu malhonnête par les représentants de la CDAO, c'est qu'ils ont eu... Ibeka en tête à tête qui leur a lui-même confirmé qu'il ne comptait pas revenir au pouvoir et que il avait quitté le pouvoir de son propre gré, ce qui est, on peut le dire, quand même un petit peu exagéré.
Y a une question que je voulais vous poser, Yvan Guichaoua, parce que après la destitution du président Keïta, on a vu dans les rues des citoyens qui manifestaient leur soutien à ce coup d'État. On a entendu d'ailleurs dans le son d'introduction certaines de ces voix qui se réjouissaient de sa destitution. Est-ce que c'est quelque chose qui est partagé ou est-ce que vraiment on a là aujourd'hui dans l'opinion malienne une forme de consensus pour dire que il était temps pour Ibeka de partir, ou est-ce qu'on a quand même aujourd'hui des personnes qui le soutiennent encore?
La vitesse en fait avec laquelle son départ a été entériné manifeste quand même le fait que il n'y avait pas beaucoup de monde qui était prêt à s'interposer face à la junte pour essayer de le protéger. Donc le déroulement du coup lui-même est un très bon indicateur du peu de soutien dont il pouvait jouir au niveau populaire et au niveau institutionnel d'ailleurs. Après, les opinions nationales sont jamais totalement uniformes. Là, on a eu des défilés de personnes effectivement très enthousiastes dans les rues de Bamako et qui sont les mêmes personnes qui, depuis juin, mettaient une pression énorme sur le pouvoir et parvenaient à mobiliser des milliers de personnes à intervalles réguliers pour manifester leur mécontentement. Donc il y a une dynamique sociale et politique contre le régime Ibeka qui était enclenchée. Après, pour moi, une des questions essentielles aujourd'hui, c'est de savoir à quel point cette dynamique-là est connectée à la junte. On a deux options, soit on fait de la junte le point culminant de cette dynamique et on n'établit pas vraiment de différence entre le coup d'État et les manifestations antérieures, soit on a une alternative qui serait de dire que des militaires, pour des raisons X, Y, Z, ont profité un petit peu de l'instabilité politique pour prendre le pouvoir, mais avec des intentions qui sont pas forcément celles du mouvement qui a commencé la contestation.
Alain Antil, venons-en peut-être à la France. Il y a deux questions qui se posent tout de suite. La première est, pourquoi est-ce que Paris n'a pas empêché ce coup d'État, voire n'a pas remis très rapidement IBK en selle? A priori, elle avait les moyens militaires de le faire. Et la seconde question, c'est maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que Paris doit, elle aussi, à son tour, entériner la destitution, accepter ce putsch et se mettre à discuter avec les nouveaux hommes forts, les putschistes qui sont aujourd'hui de facto en place, ou est-ce qu'elle doit continuer à soutenir l'idée d'un retour d'IBK? Alain Antil, sur la première question, pourquoi Paris a laissé faire?
Paris a laissé faire parce que c'est plus la vocation de Paris de décider qui doit présider le Mali ou le Niger ou la Mauritanie. Si on accepte,
enfin 2013, Paris en avait décidé autrement. Elle a évité, c'est en tout cas le discours qu'on nous a servi, la chute du président en place à l'époque.
Oui, mais c'était cette fois-ci des colonnes de groupes djihadistes qui descendaient vers Bamako, et c'était à la demande du président qui était encore en place.
En décidant d'agir, elle a de facto changé le cours de l'histoire, d'une certaine manière.
Ah, bien sûr.
Pourquoi ne pas le faire dans l'autre sens?
À mon avis, Paris veut de moins en moins avoir... Je fais pas de parallélisme entre les deux situations. Pour moi, il y a une agression interne en 2013. Là, c'est un mouvement, je dirais, de nature politique, même si c'est les militaires qui prennent le pouvoir. Et Yvan Guichaoua l'a très bien décrit. On a, depuis l'arrivée de d'IBK au pouvoir, une lente et certaine dégradation de son image dans l'opinion publique malienne, autour de ses frasques, autour des frasques de son fils, autour d'un certain nombre de problèmes de marché public, autour du fait qu'il n'a pas su mettre en place les accords d'Alger, enfin tout ça.
Ah, il a été élu ?
Il a été élu, mais il a été...
Si on destituait tous les présidents dont on n'était pas content et pour lesquels les opinions sont en train de s'affaisser, ça en ferait un paquet, hein.
Je suis pas en train de justifier le coup d'État, je suis en train d'expliquer les conditions politiques qui l'ont rendu possible.
Moi non plus, hein, je défends personne, non. Ni pour ni contre.
Non, enfin pour ceux qui suivaient l'actualité malienne, il était clair que IBK certainement ne finirait pas son deuxième mandat, que ce serait difficile que ce soit des forces populaires qui réussissent à le renverser. D'ailleurs, il a usé de violence lors de certaines manifestations, mais les revendications étaient plus profondes. C'était un régime corrompu avec des proches du président qui étaient intéressés à certains marchés publics. En plus, il y avait des revers sécuritaires au nord et au centre.
Donc Paris doit prendre en considération tous ces éléments et finalement tourner elle aussi la page d'IBK?
Bien sûr.
Ouais. Yvan Guichaoua, est-ce que vous êtes d'accord sur cette idée? Et peut-être la question qui pourrait aller derrière, celle de savoir ce que change la destitution du président Keïta dans la présence militaire française au Sahel, dans la coopération avec les forces maliennes. Est-ce que finalement on continue comme avant, sachant qu'on va tout à l'heure évidemment s'intéresser, essayer de faire un état des lieux de la situation, qu'on va voir qu'elle est très grave et qu'elle s'aggrave, elle va vraiment pas dans le bon sens, ou est-ce qu'il faut changer aujourd'hui de stratégie? Yvan Guichaoua.
Donc sur le premier point, et la capacité ou la volonté ou non de la France de stopper le coup, comme l'a dit Alain, c'est pas faisable ni techniquement, ni logistiquement, ni politiquement. La France n'allait pas déployer des forces spéciales dans les rues de Bamako pour empêcher que le coup n'ait lieu. Donc sur ce plan-là, je rejoins complètement Alain Antil. Sur la continuité des opérations de Barkhane, il a été dit très vite par la junte qu'elle souhaitait continuer de travailler avec le G5 Sahel, avec Barkhane. Donc il n'y a pas d'opposition de principe à la présence militaire française dans la région. Et les Français eux-mêmes ont déclaré très vite que pour eux, le cadre légal qui permettait l'intervention française dans la zone était toujours valide et que ils n'avaient pas l'intention, le moins du monde, de réviser leur position par rapport à la lutte antiterroriste dans la zone. Donc l'incertitude qui demeure, c'est la capacité des Français et de ses représentants de, sur place à discuter avec la junte. Et dès hier, en fait, il y a eu une réunion en fin de journée entre l'ambassadeur de France, le commandant de la force Barkhane et la junte. Donc on est sur une dynamique en fait qui représente pas forcément une discontinuité majeure par rapport à ce qui existait déjà.
Et on sait comment ça s'est passé, Yvan Guichaoua, on a un peu une idée, on sait ce qui s'est dit dans cette réunion.
Une idée de la rencontre d'hier.
Oui.
D'hier.
Du, non, du contenu, de la forme.
Alors la forme, ça s'est fait autour d'une table comme toutes.
Très souvent, c'est comme ça.
Qu'ont lieu actuellement, mais non, pour le contenu, j'ai aucun élément.
Alain Antil, est-ce que retournons les choses. Est-ce que finalement pour Paris, on n'a pas là une opportunité pour remettre à plat un certain nombre de choses? Je le disais, la dynamique est pas bonne du tout. Les groupes armés s'étendent. Alors au Nord Mali, on va peut-être faire un point. Ça se passe pas bien, mais on a aussi du côté du Niger, on l'a vu avec l'attentat de Kouré. Et puis du côté du Burkina, une situation qui se dégrade. Renversons les choses. Est-ce qu'on n'a pas là une opportunité pour Paris pour remettre certaines choses en place, de nouveaux cadres de coopération, de nouvelles exigences à l'anti? Parce que c'est vrai que le premier réflexe, c'est de se dire c'est vraiment très mauvais pour Paris. Est-ce que finalement, c'est pas aussi une opportunité de changer un peu les acteurs en place?
Alors sur les aspects de continuité de la coopération, je suis d'accord avec ce qu'a dit Yvan Guichaoua. Il y aura pas de rupture et c'est une des premières choses que la junte a dit, c'était que elle honorait les engagements maliens, qu'il y aurait pas de changement à ce niveau-là.
C'est vrai, parce que on se doute bien que dire l'inverse, c'était un risque politique terrible pour eux. Donc évidemment qu'on dit qu'on va continuer à coopérer avec Barkhane, c'est impossible autrement.
Oui, mais ça nous invite à réfléchir à la nature de ce coup d'État qui est quand même assez différent de celui de 2012. Ouais. Les gens qui ont fait le coup d'État la semaine dernière sont des officiers supérieurs, alors qu'en 2012, c'était un mouvement d'hommes de troupes coiffés par quelques officiers, sous-officiers. Ce qui entraînait d'ailleurs une désorganisation de l'appareil militaire qui était par ailleurs en grande difficulté au nord du pays. Et ça a conduit à une espèce d'effondrement ou de vacuum sécuritaire. Là, ce qui rassure, entre guillemets, la communauté internationale, qui n'est certes pas forcément satisfaite de qu'il y ait des coups d'État, c'est que c'est des officiers supérieurs. Il y aura peut-être quelques officiers supérieurs qui seront arrêtés parce qu'ils ont trempé dans des trafics de drogue ou ils ont volé certains budgets, mais les chaînes de commandement vont pas être rompues. Donc c'est pour ça, c'est pas simplement la déclaration de la junte est pas simplement pour rassurer. Je pense que c'est y a quelque chose de véritable. Maintenant, votre question sur la position française, je dirais que ce changement a déjà eu lieu avec le sommet de Pau et les décisions qui ont été prises à Pau. À mon avis, il y aura pas d'inflexion majeure. On va essayer d'appliquer ce qui a été décidé à Pau avec les 5 chefs d'État, même si aujourd'hui un des 5 chefs d'État n'est plus là.
Est-ce que c'est la bonne option, Yvan Guichaoua, ou est-ce qu'il faudrait revoir les choses? Il y a beaucoup de voix qui se sont élevées ces derniers mois, pour pas dire ces dernières années, pour dire qu'en réalité, d'abord, il aurait peut-être jamais fallu intervenir. Je sais pas quelle est votre position, vous allez nous la donner. Mais que maintenant, il se trouve qu'on y est. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, Yvan Guichaoua? Est-ce qu'on ne change rien? On touche à rien? Est-ce qu'on baisse un peu la voilure? On réduit les effectifs? C'était ce que disait le général Lecointre, chef d'état-major, dans une récente interview au Monde. Aujourd'hui, on est dans un effectif qui tourne autour de 4 500, 5 000 soldats français à peu près. Est-ce qu'au contraire, on augmente les effectifs? Vous parliez de Pau tout à l'heure à la Antille. En réalité, au lendemain de Pau, on a un tout petit peu augmenté les effectifs. Yvan Guichawa, comment vous voyez les choses? Est-ce que on touche à rien? Est-ce qu'on réduit les effectifs? Est-ce qu'on les augmente?
Alors, avant de venir à cette question, je la retiens, je la mémorise. Sur la réaction française au coup d'État. La diplomatie française, elle fonctionne un petit peu de manière cyclique avec des gens, des partenaires qu'elle voit comme des champions à un moment donné et dont l'étoile pâlit rapidement au fil des mois, après quoi les Français estiment que c'est plus le bon champion, c'est plus le bon cheval, et auquel cas on est prêt à en changer. Donc c'était un petit peu ce qui s'était passé au moment d'ATT. À la fin de son mandat, les Français n'étaient pas forcément insatisfaits de son départ. Ils n'étaient pas nécessairement heureux du coup d'État, ils n'étaient pas forcément non plus insatisfaits du départ d'ATT.
ATT, c'est l'ancien président Touré, qui a été destitué en 2012, je rappelle, pour les auditeurs.
Voilà. En 2020 avec IBK, on est peut-être dans une configuration assez similaire où le régime est tellement essoufflé et décrié par la rue que le voir partir n'est pas forcément une si mauvaise nouvelle du point de vue français au plan politique. Évidemment, ce qui reste à savoir, c'est si les nouvelles autorités vont être désireuses de travailler avec les Français, et notamment sur le plan antiterroriste. Et la réponse à cette question, elle dépend quand même beaucoup des Maliens, et notamment du rôle que va jouer ce mouvement populaire, là, le M5-RFP, autour de l'imam Diko, qui a fait toute sa campagne récente sur la corruption du régime, mais dont on sait aussi que les animateurs ont participé à des mouvements anti-français antérieurement, notamment des mouvements qui ont conduit au sommet de Pau. Donc on peut parfaitement imaginer aussi une dynamique politique au Mali qui rejette la présence française et pousse la junte à elle-même réviser le cadre de sa coopération avec les Français. Donc on n'en est pas encore là, mais je pense que c'est un débat qui va être mis sur la table. Donc, pour revenir à la question que vous posiez sur réduire la voilure ou pas, on a quand même une dynamique politique là, au Mali, avec laquelle il va falloir compter pour décider de la suite. Et pour l'instant, il y a encore beaucoup de points d'interrogation autour de cette suite. Donc voilà, les Français vont pas prendre des décisions en fonction de leurs propres intérêts ou de leurs propres impératifs. Les Maliens ont leur mot à dire dans cette séquence, évidemment. Après, sur le plan strictement tactique, militaire, stratégique de la présence française au Sahel, bon, il faut aussi voir le coup d'État comme le produit d'un échec français et de la communauté internationale en général qui portait à bout de bras le régime qui vient de s'effondrer. C'est pas juste une dynamique malienne qui vient de s'enclencher. C'est aussi l'échec total de tous les programmes d'assistance, de formation, de développement dans tous les domaines que ce soit de la communauté internationale. Donc il y a une sorte d'introspection à avoir autour de ces actions-là. Et puis évidemment, les Français sont les leaders en matière de assistance internationale du fait de leur présence militaire et du fait de leur influence politique historique dans la zone. Donc voilà, il faut réfléchir un petit peu à ce qui n'a pas marché. Pour moi, il y a un élément qui est important, c'est que même si la France ne manipule pas tout ce qui se passe au Mali, dans le cadre antiterroriste, elle a façonné en fait une scène politique qui n'est pas viable. Elle a exigé des États et du Mali en particulier une coopération en matière militaire. Elle a indiqué que le contre-terrorisme devait être la priorité. Or, c'est pas nécessairement la priorité des Maliens aujourd'hui, le contre-terrorisme. La priorité des Maliens, ça peut avoir à faire à l'accès aux services, une forme de sécurité, mais sans forcément que les djihadistes soient identifiés comme la source d'insécurité primordiale. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses à réviser au plan politique et pas juste au plan militaire.
Vous dites qu'il faut réfléchir à ce qui n'a pas marché à l'Antille. Si je vous provoque un peu, au fond, on pourrait aussi réfléchir à ce qui a marché, et c'est assez vite fait parce qu'il n'y a rien qui a marché. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Rien n'a marché dans cette histoire. Sur la question sécuritaire, les groupes n'ont cessé de s'étendre. Sur la question du développement, il y a d'ailleurs un volet prévu là-dessus, dans le G5 Sahel, il se passe quasiment rien, c'est un échec total. Rien n'a marché. Sur la stabilisation du pays, c'est un putsch aujourd'hui, il y a un coup d'État, donc on n'y est pas parvenu. Sur la question des forces armées aussi, force est de constater qu'on n'a pas réussi à accompagner les forces maliennes, et même d'ailleurs dans les autres pays, pour améliorer leur capacité à répondre aux défis sécuritaires. Rien n'a marché à la Antille, c'est un échec total sur toute la ligne.
Oui, la sécurité s'est dégradée, on s'est focalisé sur le contre-terrorisme alors que les problèmes sont bien et plus étendus que ça. Les acteurs de la violence sont maintenant, il y a des groupes qui veulent l'autonomie de leur région au nord du Mali, il y a beaucoup de milices communautaires. Le problème du terrorisme, c'est l'agenda de la communauté internationale qui veut que ça soit la priorité absolue de cette zone, alors que, comme le disait Yvan tout à l'heure, si on demande l'avis des gens qui sont à Bamako et des gens qui sont sur certains terroirs maliens, pour certains c'est le banditisme le premier problème, pour d'autres c'est les groupes qui remettent en cause l'unité du Mali, pour d'autres c'est les groupes armés d'une communauté adverse. Et je crois qu'il faut effectivement réfléchir politiquement à ces choses, et c'est aux Maliens de le faire. Le deuxième point, et il est en train de m'échapper complètement.
C'est la question du développement peut-être, non?
Oui, la question du développement.
Où la Paris passe complètement au travers. Alors même qu'on a entendu à plusieurs reprises des discours extrêmement ambitieux d'Emmanuel Macron quant à la nécessité de repenser la coopération, de mettre le développement au cœur justement de cette coopération. Or pour l'instant, s'agissant du Mali, s'agissant de la présence de Paris dans la région, c'est quand même pas terrible le bilan.
Alors, il y a des efforts de développement qui sont faits, mais le problème qui se pose, c'est que déjà, comment on fait du développement dans des zones en conflit? Et avec quels acteurs? Ça, c'est la première chose.
Mais c'est toute la question. La question, c'est, on commence par le développement, on commence par la sécurité. On a mis le paquet sur la sécurité, ça marche pas. Donc, il y a peut-être un moment où faut changer son fusil d'épaule, faut même peut-être lâcher le fusil et faire du développement pour espérer apporter la sécurité. C'est une question.
Il faut pas fétichiser le développement en pensant que c'est la solution à tout, parce que on a fait du développement au Sahel depuis l'indépendance. Et on est arrivé à la situation du début des années 2010, du développement où il y a des sommes énormes qui s'évaporent, alimenter des tensions sociales qui sont préexistantes. Donc le développement, oui, il faut certainement en faire plus. Il faut aussi agir politiquement, à mon avis. Et c'est là l'idée qui m'échappait tout à l'heure et qui est essentielle, c'est qu'on a agi beaucoup sur les conséquences et peu sur les causes. C'est-à-dire que, comme vous le disiez tout à l'heure, on a un régime qui s'est complètement avachi, dégradé, et on a le sentiment que la communauté internationale n'est pas assez exigeante avec les gouvernants de ce pays, notamment quand elle est le témoin direct des détournements, de la malgouvernance. Alors c'est extrêmement difficile.
Vous pensez à quelque chose en particulier sur le Mali, pardon de vous couper?
Bah écoutez, il y a eu ces dernières années, enfin il suffit de regarder les contestations sociales. Il y a un an, il y a une série de contestations sociales qui se sont mises en place autour des questions de routes qui n'étaient pas construites ou pas maintenues. Les gens se demandent où part le budget. Sur les budgets militaires, on sait qu'il y a, comme au Niger d'ailleurs, des évaporations très très importantes, alors même que le pays est soi-disant en guerre. Tout ça, c'est mis au crédit, si j'ose dire, de ce gouvernement. Et par ricochet, ça atteint la communauté internationale, parce que les Maliens se disent, mais tout le monde le sait ce qui se passe. Pourquoi la communauté internationale tolère ces choses-là? Alors pour la communauté internationale, elle se défend en disant « Oui, mais c'est très difficile de faire de la coopération avec des gens qu'on devrait dénoncer. » Alors ça a été fait à certaines reprises. Il y a eu des déclarations, notamment, je me rappelle, d'un ambassadeur d'Allemagne qui a dit « À titre personnel, je déconseillerais aux entreprises allemandes d'investir au Mali puisque c'est un pays complètement corrompu avec un système de justice inefficient. » Le FMI avait fait, il y a quelques années, quand il y a eu un scandale autour de l'achat de l'avion présidentiel, avait décidé de bloquer sa coopération pendant quelques mois. Et ça a eu un impact très rapide sur ça a un impact très très fort sur la politique interne. Moi je comprends pas, et peut-être Yvan a des éléments là-dessus, pourquoi la communauté internationale et la France en particulier n'est pas plus exigeante sur
la question de la gouvernance
sur la gouvernance qui est à l'origine de ces problèmes.
Yvan Guichaoua, vous avez une idée Paris en particulier n'est pas plus exigeant sur cette question de la gouvernance qui est centrale?
Ma réponse tient dans le fait que ce qui est privilégié de la part de la communauté internationale, c'est une sorte de stabilisation à relativement court terme, sans voir que pour stabiliser à long terme, il faut des États légitimes. Donc, on pousse au maintien de ceux avec qui on travaille, parce qu'on a établi une relation avec eux, parce qu'on a nos routines, et on met la poussière sous le tapis. En faisant aussi de la diplomatie informelle, ce qu'a dit Alain Antil échappe pas au regard de la communauté internationale. Tout le monde est parfaitement au courant de toutes les frasques du régime, de toute la corruption qu'il a entouré. Et puis, ce qu'on entend dans les couloirs diplomatiques, c'est oui, on est au courant, mais on va pas mettre ça sur la place publique, on va discuter en tête à tête, on va essayer de tordre un petit peu le bras, etc. Mais bon, les conditionnalités sont jamais véritablement mises en œuvre.
De quoi a-t-on peur, Yvan Guichaoua?
Un régime qui se perpétue.
De quoi a-t-on peur? On a peur de passer pour les moralisateurs en chef?
Non, c'est pas qu'on a peur de passer pour les moralisateurs en chef, on a peur de perdre ceux avec qui on a une certaine visibilité, ceux dont on peut prédire un petit peu les actions, parce que dans le cadre du Mali, il faut pas se voiler la face à mon avis, la grande peur de la France, ce serait de voir arriver un régime articulé autour des idéaux de l'imam Diko. Et qui, lui, souhaiterait certainement réviser le cadre de partenariat qui existe actuellement avec la France.
Sauf que en ne le faisant pas, la France perd la bataille de l'opinion qui est gagnée en retour précisément par l'imam Diko et le mouvement qui y est derrière.
Et c'est bien pourquoi je pense qu'il y a un véritable court-termisme dans la réflexion des Français.
Alain Antil, encore un mot, ensuite je voudrais qu'on évoque le cas particulier du Burkina Faso.
Oui, ce qui est privilégié toujours, c'est la stabilité, entre guillemets, c'est la peur aussi quand on tense les dirigeants, c'est d'être accusé en retour de néocolonialisme ou d'attenter à la souveraineté. Alors effectivement, on privilégie les torsions de bras en coulisses et à l'écart des caméras et des micros, mais celles-ci sont en vérité très peu efficaces. Donc il y a une absence de vision stratégique côté français, à mon avis. Comme disait Yvan Guichaoua, on privilégie le court terme, la stabilité à court terme, tout en sachant que les fondamentaux de ces pays, qu'ils soient politiques ou économiques, sont très mauvais.
Quand il s'agit de tordre le bras, on n'a pas peur de le faire devant toutes les caméras sur les questions sécuritaires. À Pau, c'était exactement ça. Quand il fait venir Emmanuel Macron, les chefs d'État du G5, c'est pour leur dire très clairement, positionnez-vous plus clairement sur la présence militaire française dans vos pays. Dites que c'est vous qui souhaitez cette présence. Là, on tord le bras sur la question sécuritaire. On n'hésite pas un instant, Alain Antil.
Bien sûr, il y a des exceptions à tout. Effectivement, là, c'était un exemple assez impressionnant de chef d'État qui était convoqué par le directeur pour se faire un peu taper sur les doigts. Ça a été clairement ressenti comme une, d'ailleurs dans les opinions publiques, comme une sorte de d'humiliation politique. Il faut bien le dire.
Parlons du Burkina Faso.
Une nuit, des individus lourdement armés sont arrivés dans notre village et ils ont commencé à tirer partout. J'ai reçu une balle là dans la cuisse.
Ils ont appelé l'abbé dans l'église et ils lui ont dit « Où tu vas? On a besoin de toi ». Alors l'abbé a levé les mains et à ce moment-là, ils l'ont tiré dessus. Et l'abbé demandait « Mais qu'est-ce que j'ai fait ?»
Quelqu'un a quelque chose à dire? Oui? Ton école a été attaquée? Qu'est-ce qui s'est passé?
Ils ont défoncé les portes de l'école et ils ont brûlé les cahiers et les manuels. Aujourd'hui encore, quand je vois quelqu'un avec une moto, j'ai peur. On a toujours peur. Et on fuit.
Voilà, peut-être rappeler donc là des témoignages d'un extrait d'un reportage de France Info. Le Burkina, qui est le pays le plus touché de la région, on a plus de 1100 morts et 1 million de déplacés sur les 5 dernières années. Il se trouve que c'est vraiment un territoire particulièrement touché par cette prolifération d'attaques meurtrières, alors que pendant des années, c'était justement un pays qui était un peu à l'abri de tout ça. Mais ça, c'était une autre époque, c'était l'époque de Blaise Compaoré qui était tombé en 2014, on s'en souvient. Yvan Guichaoua, comment expliquer qu'aujourd'hui le Burkina soit à ce point touché par les attaques? Il va peut-être falloir faire le tri entre justement les différents groupes armés qu'il y a en présence, mais on était sur un territoire qui était vraiment, vraiment très, très épargné par ce phénomène-là. D'ailleurs, même au moment de la chute de Blaise Compaoré, en réalité, les Burkinabés avaient la conviction qu'ils ne seraient pas touchés par tout cela parce que, supposément, leur pays aurait une tradition du dialogue qui les tiendrait à l'écart de tout ça. Or, c'est pas le cas. Qu'est-ce qui s'est passé, Yvan Guichaoua, au Burkina?
Effectivement, du temps de Blaise Compaoré, on pouvait estimer qu'il y avait une sorte de gestion un petit peu subtile et informelle de la menace terroriste, et que ce cadre-là a explosé au moment de la chute du régime Compaoré, mais qui a aussi correspondu à un moment de démantèlement, en fait, de l'appareil sécuritaire du régime Compaoré. Donc tout a dû être un petit peu refait de zéro, et puis disons que les compétences qui existaient du temps de Compaoré ont été mises à distance parce que elles étaient potentiellement une menace pour le nouveau régime. Après, les mouvements djihadistes eux-mêmes ont suivi leur propre dynamique d'extension territoriale et ont trouvé des bassins de recrutement dans des zones où certaines populations pouvaient avoir des comptes à régler avec l'État. Ce qui est étonnant dans le cas du Burkina Faso, c'est la rapidité avec laquelle les mouvements djihadistes se sont diffusés, avec à chaque fois, localement, des stratégies un petit peu différentes pour sécuriser, disons, un espace. Dans une zone, ça peut être des deals avec des orpailleurs. Dans une autre zone, ça peut être un arrangement avec des braconniers qui ont l'État aux trousses. Les djihadistes ont une connaissance très fine des rivalités locales qu'ils savent exploiter pour ensuite se créer des petits espaces de protection et pouvoir opérer de manière relativement libre et continuer de s'étendre géographiquement. Après, la réponse burkinabé a été très très problématique. On a eu des exactions commises par l'armée de très grande ampleur qui sont le meilleur moyen de faire que les djihadistes recrutent encore plus. Donc cet aspect-là de la réponse étatique est aussi à prendre en compte si on veut comprendre la rapidité avec laquelle les djihadistes se sont déployés. Et un dernier point...
C'est l'un des carburants, évidemment, de ces violences.
De l'armée burkinabé. Voilà. C'est pas un phénomène anecdotique, les exactions de l'armée. C'est un problème qui est au cœur d'une des institutions les plus importantes pour la régulation de ces pays-là, c'est-à-dire la régulation des armées. C'est pas un problème de déviance morale de certains éléments de l'armée, c'est un problème de corruption à grande échelle en interne, le fait que des soldats de base soient livrés à eux-mêmes alors que leurs chefs sont dans la capitale. C'est un problème de contrôle du politique sur le militaire, et évidemment le politique se méfie du militaire du fait de l'histoire des coups d'État dans la zone. Donc cette question des exactions de l'armée, qui est essentielle pour comprendre la dynamique djihadiste, elle est aussi centrale pour comprendre la gouvernance des États. Je veux vraiment insister sur l'idée que c'est pas une déviance de certains éléments dont on pourrait se débarrasser comme ça, juste par des mesures de sanctions.
Alain Thil, encore un petit mot, et puis ensuite on va accueillir Niagale Bagayoko pour voir si tout cela pourrait s'étendre. C'est un risque de contagion, et on va s'intéresser à la Côte d'Ivoire. Mais on le voit, dans cette zone-là, il y a une multiplication effectivement des foyers de violence, avec des acteurs extrêmement divers, qui d'ailleurs parfois se font même la guerre entre elles. Mm-hmm. Est-ce que le risque de l'émergence d'un territoire autonome ici et là, est-ce que en gros on pourra avoir le scénario de l'émergence d'un califat dans cette zone-là, ou est-ce que c'est un pur... c'est impossible.
Dans la zone des trois frontières, c'est précisément la mission de Barkhane d'éviter que des groupes ou un groupe soit en capacité à contrôler le territoire, comme l'avaient fait très temporairement les trois groupes djihadistes au nord du Mali durant l'année 2012. En fait, la mission Serval plus qui s'est transformée en mission Barkhane a comme principal objectif non pas de réduire à zéro tout djihadisme, mais d'empêcher ces groupes de monter en gamme au point de pouvoir contrôler effectivement les territoires. Donc il y a pas de risque, mais le risque, c'est que l'État ne le contrôle plus non plus. Donc il y a une espèce de co-gestion de certains territoires, comme disait Yvan Guichaoua juste avant, dans l'est du Burkina Faso, il y a maintenant des zones aurifères qui sont contrôlées par ces groupes, ce qui est très grave en soi, parce que ça leur permet d'accéder à des ressources, et donc à monter en gamme d'un point de vue logistique. Donc il y a pas aujourd'hui un grand territoire de l'EIGS qui contrôlerait absolument.
État islamique au Grand Sahara.
Mais si Barkhane se retirait, ça sera tout à fait possible. Les armées nationales ne pourraient pas s'y opposer.
D'où le fait que Paris ne se retirera pas, a priori. C'est
vraisemblablement.
Très vraisemblablement. On va s'intéresser à la Côte d'Ivoire. Ce week-end, le président ivoirien Alassane Ouattara a été officiellement investi candidat aux prochaines élections présidentielles. Ça sera en octobre prochain. Il brigue donc officiellement un troisième mandat, alors que la Constitution les limite à deux. Ça fait des semaines qu'il y a des manifestations pour s'élever contre ce mandat de trop. Bonjour Niagale Bakayoko.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, présidente de l'African Security Sector Network. Est-ce que Ouattara pourrait être poussé vers la sortie par l'armée? Est-ce que le scénario à la malienne, sur lequel on se penche depuis ce matin avec Alain Antil et Yohan Guichaoua, est possible en Côte d'Ivoire?
Alors, tout d'abord, il faut avoir conscience que l'armée n'est absolument pas un acteur monolithique en Côte d'Ivoire, tout comme elle ne l'est pas d'ailleurs au Mali, ni dans aucun des pays qu'on considère, enfin en tout cas au Burkina Faso non plus. Mais la Côte d'Ivoire, il faut savoir que l'armée actuelle est née de la fusion de deux composantes qui se sont opposées précisément pendant la crise des années 2000. Donc aujourd'hui, les forces armées de Côte d'Ivoire sont composées à la fois des anciens FANCI, donc des forces armées institutionnelles, et d'autre part, des forces armées, forces nouvelles, c'est-à-dire de l'ancienne rébellion, qui a été intégrée au sein de l'armée. Ce qui explique qu'on a au sein de cette armée des sortes de double chaînes de commandement, avec des affiliations auprès des différents protagonistes que je viens de mentionner. Le rôle notamment des anciens commandants de zone, les comzones, est très important. Il faut aussi souligner qu'il y a une importante dynamique de ce qu'on appelle la dozoïsation, c'est-à-dire le rôle des chasseurs dozo, qui ont aussi beaucoup contribué à l'époque à la conquête du pouvoir par les forces armées nouvelles, qui ont permis à Alassane Ouattara d'arriver au pouvoir. Donc l'approche de la confrérie Dozo en termes de sécurité est extrêmement importante au sein de l'armée ivoirienne et il y a des risques de communautarisation de l'appareil sécuritaire, y compris avec des tensions ethno-religieuses en son sein. Et la question qui se pose aujourd'hui est de savoir si l'armée va être instrumentalisée par le pouvoir actuel. Il y a des signes en ce sens qui rappellent la façon dont Laurent Gbagbo avait cherché à s'appuyer sur les Fanti à l'époque. Et aujourd'hui, on se demande si, à l'inverse, les courants contraires que j'ai viens de décrire pourraient se retourner contre le président qui s'en méfie également.
Oui, c'est d'ailleurs quelque chose qu'on voit à travers, il y a eu des prises de parole de cadres importants de l'armée qui ont appelé le président Ouattara à démissionner. Donc on sent ces tensions très fortes au sein de l'armée. Que peut, que doit faire la France, Paris, dans ce cas, Niagale Bagayoko? En mars dernier, Emmanuel Macron avait salué la décision de Ouattara de ne pas se présenter à une nouvelle élection. Il avait dit c'est un homme de parole et un homme d'État. Alors là, il se trouve qu'évidemment, il a changé d'avis. Mais c'est pour une raison assez claire, enfin, qui peut se comprendre de son point de vue, c'est que il y a entre-temps la mort de son premier ministre qui était son dauphin, Amadou Gon Coulibaly. Et donc, il a changé d'avis depuis. Que doit faire Paris? Que peut faire Paris? L'ancien premier ministre ivoirien Guillaume Soro a invité Emmanuel Macron à désavouer Ouattara. Est-ce qu'il doit le faire?
Alors, le problème de Paris, mais comme on vient aussi de le voir pour ce qui se passe au Sahel, c'est le caractère multidimensionnel de la crise très grave qui s'annonce en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'à la crise politique autour du contentieux juridique et constitutionnel portant sur la possibilité d'Alassane Dramane Ouattara de concourir pour un troisième mandat, s'ajoute une situation sécuritaire qui se dégrade, comme on l'a vu à l'occasion de l'attaque de Kafolo, avec une menace djihadiste qui s'étend vers le sud, et notamment à la frontière entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. On a une situation intercommunautaire explosive, hein, avec des exactions qui sont particulièrement préoccupantes ces derniers jours dans le sud et dans l'ouest, où s'affrontent des populations autochtones qui s'opposent à une forte présence des communautés nordistes perçues comme proches du pouvoir actuel. On a un facteur interreligieux et il y a évidemment cette situation sous-régionale, continentale, internationale, où on voit un échec collectif des mécanismes de gestion des conflits. Donc l'équation pour la France, elle est extrêmement compliquée et il faudrait éviter, à mon avis, le scénario selon lequel on ne focalise uniquement l'attention que sur cette question du troisième mandat d'Alassane Ouattara.
C'est-à-dire qu'il faut pas refaire l'erreur de la dernière fois, parce que là, le tableau que vous êtes en train de nous peindre est extrêmement inquiétant. On a vraiment l'impression de se retrouver 10 ans en arrière, en 2010, avec évidemment la grande crise qui avait fait quand même plus de 3000 morts, hein, où à l'époque, précisément, la communauté internationale, et Paris en particulier, avait soutenu Ouattara contre Gbagbo. Là, vous dites il ne faut surtout pas refaire cela, il faut rester un peu à distance. C'est ça que vous dites, vous préconisez en tout cas.
Mais aujourd'hui, la difficulté, en effet, c'est que l'on se retrouve plus ou moins avec les mêmes acteurs que ceux qui se sont affrontés dans le courant des années 90 et 2000 jusqu'en 2011 en effet, avec un fonctionnement très gérontocratique aussi du pouvoir, hein. La moyenne d'âge des dirigeants ou de l'élite politique est de 60 ans en moyenne contre 20 ans en moyenne pour la population ivoirienne. Il n'y a pas de démocratie interne à l'intérieur des différents partis et on se retrouve encore avec ces trois figures tutélaires que sont Alassane Dramane Ouattara, Laurent Gbagbo, même si son statut d'accusé par la CPI complique évidemment son cas, et en coulisses, plus ou moins, Henri Conan-Bédier. Et avec de nouveaux acteurs qui se sont greffés, vous mentionnez en effet Guillaume Soro, qui était proche, hein, d'Alassane Ouattara, mais qui, au fil des années, est devenu en rupture de banc avec lui. Donc, effectivement, je pense que non seulement la situation rappelle celle des années 90-2000, mais qu'elle est en réalité beaucoup plus grave, avec une situation sous-régionale et sahélienne notamment, qui n'est absolument pas celle de l'époque. Alors c'est vrai qu'à l'époque, il y avait des conflits en Sierra Leone et au Libéria, donc dans l'espace de la rivière Mano, voire en Guinée, qui menaçait aussi l'équilibre en Côte d'Ivoire. Mais là, le panorama est beaucoup plus inquiétant au niveau sous-régional.
Alain Antil, un tout dernier mot sur la Côte d'Ivoire. On voit que les ingrédients sont là, malheureusement, pour une nouvelle crise, disons après, celle qui avait vu l'arrivée précisément de Ouattara. Que peut ou que doit faire Paris, Alain Antil?
C'est très compliqué parce que à chaque fois que Paris intervient officiellement, ça peut créer des interférences et créer exactement le contraire de ce que Paris veut faire. Je pense que la... Un des enseignements, c'est de ne pas forcément s'opposer au sens de l'histoire. En fait, s'il y a une crise, elle devra arriver.
Yvan Guichard, vous partagez cette opinion en quelques mots. On arrive au terme de cette émission, mais je voudrais entendre peut-être votre opinion sur ce cas-là. Vous pensez-vous aussi qu'au fond, la prise de distance est la moins mauvaise des options ?
Oui, et puis tendre l'oreille aux dynamiques sociales, politiques qui se manifestent. On est en train de dresser un portrait tout à fait horrible de la zone. Il faut pas oublier que, si on prend le cas du Mali par exemple, on vient d'assister à une séquence de mobilisation sociale, populaire, enthousiaste, extraordinaire depuis juin dernier. On ne sait pas où ça va aller, mais les acteurs qui ont entre les mains... le destin de cette région et de ces États doivent voir l'énergie qui se manifeste, et les aspirations qui se manifestent de la part des populations et s'en saisir comme une opportunité pour essayer de inverser la tendance.
Merci beaucoup à tous nos invités, Niagale Bagayoko qu'on avait à l'instant par téléphone, Yvan Guichawa qui est avec nous depuis Bruxelles, un grand merci également à Alain Antil de nous avoir accompagnés ce matin, vous en studio, on essaye de faire des dispositifs restreints, mesures Covid oblige, un grand merci à vous, on poursuivra demain notre rentrée diplomatique avec cette France à la manœuvre, mais pour l'heure celui qui est à la manœuvre c'est Brice Couturier pour son tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Et bonjour Florian.
La crise du coronavirus a mis en lumière le rôle des experts et a renforcé l'autorité des dirigeants politiques à leur côté, à leur écoute, pardon. A contrario, on a vu les dirigeants populistes gérer l'épidémie de manière erratique. Peut-on miser sur le reflux de la vague populiste pour cause de coronavirus ?
C'est une question qui est beaucoup débattue en cette rentrée. Le fait que les pays dirigés par des leaders populistes, en particulier les États-Unis, le Brésil et le Mexique, aient été les plus touchés par l'épidémie devrait avoir démontré l'inefficacité des hommes providentiels et autres tribuns du vrai peuple, à la Donald Trump, López Obrador ou Jair Bolsonaro. Dans les trois cas, il y a eu une dramatique sous-estimation initiale de l'épidémie, une simple petite grippe pour Bolsonaro, suivie d'une contestation des mesures préconisées par les experts, sous prétexte de défendre les libertés de mouvement et de réunion. Trump a publiquement critiqué l'inamovible directeur de l'Institut américain des maladies infectieuses, le docteur Anthony Fauci. Il a désapprouvé les gouverneurs qui décidaient de confiner leurs États. Il a relayé les fausses informations présentant l'hydroxychloroquine comme un médicament efficace contre le coronavirus. Il a collaboré aux campagnes de désinformation tendant à présenter l'épidémie comme un complot ourdi par les élites pour justifier des mesures exceptionnelles. Alors comme l'écrit Yasmine Serran dans The Atlantic, la pandémie a permis aux populistes de faire ce qu'ils savent le mieux faire. Monter des campagnes contre ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, propager leur propre version des faits et promouvoir la pensée conspiratrice au détriment des avis scientifiques. A contrario, on remarque que la crise sanitaire a renforcé la popularité des leaders issus de la classe politique traditionnelle. Angela Merkel en Allemagne, Jacinda Ardern en Nouvelle-Zélande, Giuseppe Conte en Italie et chez nous, Emmanuel Macron, ont obtenu de bons sondages. Face à une crise grave, la compétence et la modération ont rassuré quand l'outrance et l'agressivité alarmaient. Mais l'épidémie a aussi constitué, pour certains leaders populistes, une excellente occasion d'avancer leurs pions. En Hongrie, on a vu Viktor Orban profiter de la situation pour se faire voter par une assemblée nationale hongroise aux ordres, le droit de gouverner par ordonnance et sans contrôle parlementaire. En Pologne, le parti Droit et Justice a profité de l'interdiction des rassemblements pour bloquer la campagne de l'opposition. En outre, comme le fait remarquer le Canadien Michael Ignatieff, certaines mesures prises pour contenir le développement de la pandémie ont contribué à crédibiliser les politiques préconisées par les partis populistes. En particulier, la décision de fermer des frontières, y compris entre pays membres de l'Union européenne, a démontré que l'État-nation continuait à apparaître comme l'ultime recours des populations en cas de crise majeure.
Mais Brice, peut-être faut-il distinguer entre les différents populismes. Ils n'ont pas tous préconisé les mêmes politiques.
C'est pourquoi le Tony Blair Institute for Global Change, un think tank anglais, donc, vient de publier une étude portant sur 17 pays où des partis populistes sont au pouvoir. Son auteur a étudié leur réponse face à la crise sanitaire en distinguant deux critères. Ont-ils sous-estimé ou non la gravité du risque épidémique? Et enfin, leurs réponses politiques ont-elles été libérales et donc comparables à celles adoptées par les gouvernements non populistes ou au contraire illibérales comme celles des pouvoirs autoritaires à la chinoise? Et bien, contrairement à une idée reçue, la majorité des gouvernements populistes, 12 sur 17, n'a pas sous-estimé la gravité de l'épidémie. Seuls 5 leaders populistes ont commis cette erreur initiale. Trump, López Obrador et Bolsonaro déjà cités, mais il faut rajouter Loukachenko en Biélorussie et Daniel Ortega au Nicaragua. Sur les 12 populistes qui ont donc pris, eux, l'épidémie au sérieux, seule une minorité, là encore, a réagi de manière autoritaire, instrumentalisant la crise pour renforcer ses propres pouvoirs. Il s'agit de Orban en Hongrie, Modi en Inde, Duterte aux Philippines, Morawiecki en Pologne, Erdogan en Turquie. Cette étude permet aux auteurs de la note de distinguer 3 catégories distinctes de populisme. Anti-establishment, culturel, socio-économique. Un progrès bienvenu pour tous ceux qui se plaignent que l'appellation populiste soit devenue un fourre-tout conceptuel au pouvoir d'élucidation décidément insuffisant. Mais ce que les populistes ont en commun en tout cas, c'est d'une part une tendance à aggraver la polarisation idéologique au sein des nations tout en prétendant lutter pour leur unité. De l'autre, une capacité particulière à instrumentaliser à leur profit le mécontentement social. Or, comme le fait remarquer la politologue Nadia Urbinati, l'épidémie ayant provoqué un dramatique recul de la croissance, elle va se traduire par un niveau de chômage et une détresse économique qui ne peuvent qu'alimenter le populisme. Il faut donc s'attendre à une deuxième vague populiste.
Merci beaucoup Brice Couturier, enfin merci pour cette bonne mauvaise nouvelle, je sais pas. En tout cas, on peut retrouver votre chronique sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. On vous retrouve demain vers 11h52, 11h53, comme chaque jour. Dans un très court instant, c'est Olivia Gesbert et La Grande Table.